France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans les années 70, la déferlante du punk rock marque une génération bien au-delà des amateurs de musique binaire. Avec son mot d'ordre du No Future, son esthétique sombre, sa vision du monde nihiliste, ce mouvement musical impose ses codes. Il inspire des créateurs, des artistes dans tous les registres et même des écrivains qui s'enthousiasment pour l'immédiateté, l'efficacité et la puissance brute du punk. L'émission que vous allez entendre dans un instant donne la parole à une authentique écrivaine punk, Virginie Despentes. Au micro de Jeanne-Martine Vacher, elle confie même que c'est essentiellement le fait d'être issue de ce mouvement qui l'a mise sur le chemin de la littérature. Ce numéro du magazine Décibel a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 21 novembre 2004. Pour débuter cet entretien, Jeanne-Martine Vacher demandait à Virginie Despentes à quel moment la musique était entrée dans son existence.
Dans les gens qui nous préoccupent aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre du double. Il y a ce double destin qu'on vient d'évoquer avec André Lichka de Borodine, donc musicien et scientifique. Et puis il y a ce double amour de Virginie Despentes qui construit sa vie entre musique et écriture. Alors elle est venue jusqu'à nous, c'était il y a quelques jours, c'était pas dans l'après-midi, c'était un soir. C'est important parce que parfois les échanges selon les heures ne sont pas tout à fait les mêmes. C'était un soir, on était comme ça dans un studio un petit peu sombre et on s'est parlé de musique et de littérature. Et je lui ai demandé tout d'abord quand était arrivée la musique dans son existence.
Alors vraiment depuis que je suis une petite fille, moi je suis née en 69, je crois pour les gens de mon âge en fait, ça a été vraiment important. Parce que c'est ça correspond avec la vente dans les supermarchés de disques et donc l'arrivée massive des disques chez les gens je crois. C'est les premiers trucs qu'on peut écouter tout seul dans sa chambre, parce qu'on a une radio dans la chambre, pas encore une télé. Et les disques, ouais, je me souviens des premiers disques que j'achète, c'est tout de suite, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a la vraie vie, les vrais trucs, les vraies émotions. Et c'est là la première fois, je crois, qu'on a l'émotion. Je ne saurais pas la définir exactement, mais je sais que c'est une émotion importante. La première fois qu'on comprend que c'est notre musique, que c'est pour nous et tout, je crois que c'est vraiment important pour tous les adolescents.
On a l'impression, quoi. Et dans Bye Bye Blondie, par exemple, il y a un moment où justement, Gloria, votre héroïne, elle entend Sex Pistols, Barry Ryan Noir, Taxi Girl, et elle se dit, voilà, c'est comme si elle se reconnaissait elle-même. C'est un peu ça, cette idée, c'est que tout d'un coup, c'est dans une musique.
Ça existe, ouais. La toute première fois que j'ai compris que la musique, ça allait vraiment changer ma vie, c'était en écoutant un disque de Cure, ça devait être en, je sais pas, en 83, quelque chose comme ça, 82, 83. J'étais une toute jeune fille.
Ça veut dire quoi, changer votre vie, en l'occurrence?
Quelque chose qu'on pressent à l'intérieur de soi, d'un coup, on se rend compte que ça existe quelque part. C'est comme un signe d'espoir, quoi. Et, le monde se limite pas à ce qu'on en voit quand on a 12, 13 ans. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, je crois. Et je crois que c'est un choc que d'autres gens ont aussi, quoi. Je sais pas, il y a des choses entendues, quoi. Quand les gens connaissent le Dead Kennedys, Motorhead...
Motorhead, vous le citez d'ailleurs
Ça induit quelque chose, ouais. Au niveau peut-être de l'humour, c'est peut-être ça le plus... vraiment un type d'humour, quoi.
Alors d'ailleurs, dans votre livre, il y a un dialogue qui est très étonnant par rapport à ça, qui est avec ce personnage d'Eric. Donc Gloria, votre héroïne, se retrouve dans un hôpital psychiatrique, hein, suite à des choses très compliquées avec son père. Et dans cette espèce de solitude terrible, arrive un jeune homme qui est là lui aussi, mais qui lui est un jeune bourgeois qui a atterri là, mais qui à ce moment-là est que pont, écririez-vous, c'est-à-dire qu'il est punk. Leur première conversation forte, c'est justement sur la musique. Hein. Alors, il la regardait par-dessus son bol qu'il tenait à deux mains. À part Motorhead, t'écoutes quoi? Ça, c'est lui qui parle. Elle répond, Motorhead. Ah ouais, t'as de l'humour, dit-il. T'aimes pas Motorhead, toi? Lui dit-elle. Et lui répond, franchement, si j'aimais pas, je te le dirais pas, j'ai pas envie de prendre une trempe. Alors, et tout le dialogue se poursuit comme ça. Lui a des goûts, lui, il aime les Stooges, le New York Dolls, qu'elle connaît pas, mais ça sonne comme quelque chose qui lui plaît quand même. Hein. Et tout, je peux pas tout lire parce que c'est un très long texte qui fait plusieurs pages, mais qui est vraiment l'illustration de ce qu'on est en train de dire.
Ouais. Non, puis c'est une indication sur les gens, sur ce qui leur a semblé important à quel moment, sur. Je vous dis, moi, jusqu'à ce que j'ai 25, 26 ans, et même après, en fait, hein, il ne me serait même pas venu à l'esprit de discuter avec quelqu'un qui ne connaîtrait pas qui était Motorhead. Et ce qui est étonnant, par exemple, quand on fait un livre comme Bye Bye Blondie ou comme les livres que je fais, c'est à quel point les gens viennent parler de rock, justement, de musique avec moi, et à quel point je trouve que c'est ce qu'ils ont de meilleur en eux.
Parce que c'est
associé à l'idée de jeunesse, de générosité, de rêve, de fragilité, de courage, c'est associé que à des trucs vraiment de petit enfant. Le rock and roll, c'est un truc de petit garçon à la base. C'est même pas un truc de petite fille, c'est vraiment un truc de petit garçon. Et c'est que des valeurs chevaleresques, mais au sens les plus rigolotes du terme, le rock'n'roll. Même si c'est extrêmement dépressif, ça peut être aussi extrêmement dépressif.
Extrêmement violent aussi. Ça,
violent, pas... destructeur, mais c'est quand même toujours associé à l'idée de pro-chevalier. Il y a quelque chose comme ça dans le rock. C'est pas la normalité, c'est pas la grisaille, c'est pas la compromission, c'est le contraire de tout ça. Quoi. Donc c'est forcément un endroit assez précieux et joli des gens.
Dans la voiture, il préparait la soirée en écoutant Macadam Massacre à fond. Il s'égosillait. Adonowona Bébé Malo, vitesse, autoroute, nouveau pote, boîte à rythme à fond. Cette musique qu'elle écoutait en boucle depuis plusieurs années avait deux effets contradictoires. Un soulagement extraordinaire, défoulement et soulagement. Et dans le même temps, ça appelait une angoisse extraordinaire, sans la résoudre. Ça parlait de ça. Être enfermé, être autorisé, être terrorisé, être dans le noir.
Libéreur et noir. Donc c'est un groupe qui apparaît au début des années 80, vers 83-84, et dès le début en fait ils font beaucoup parler d'eux. Mais au début c'est un groupe un peu arty, très, comme on vient d'écouter quoi, avec des morceaux très noirs, très sombres, très violents, un truc arty primaire. Et puis ça devient très vite carrément énorme. Ça, c'est aussi parce qu'ils sont sur un label avec des gens qui vont beaucoup faire parler d'eux, qui vont devenir Bondage Records, qui va devenir le premier label alternatif de tous. Et puis les Berus, très vite, ça va devenir donc ce groupe emblématique de toute la scène alternative. Mais ça part d'un truc beaucoup plus sombre, quoi. Et puis petit à petit, ça devient un énorme cirque alternatif, hyper rebelle, hyper guerrier, qui pose plein de problèmes. Et pour les gens comme moi... Entre 14 et 20 ans, grosso modo, les Berus, on va, à travers ce groupe-là, qu'on va apprendre vachement de choses sur... sur le monde, en fait, c'est comment dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Et on va apprendre toutes les contradictions de l'alternative, quoi. Puis qu'il y a les limites, quoi. Il y a les limites du genre, il y a les limites, par exemple, les Bérus, c'est un groupe, du coup, qui va tourner en France avec des petites assos, donc il va vachement tourner en dessous de ses capacités, dans des circonstances souvent exténuantes, donc il va s'user vite, c'est un groupe qui va splitter très très vite, et notamment peut-être parce qu'ils ont trop joué dans des trucs où pas adaptés, que ça a demandé trop d'énergie, que c'était vraiment trop de problèmes qui se posaient à chaque truc, parce que tout devait être fait correctement, donc ils avaient jusqu'à leur service d'ordre. Puis finalement, le groupe split, après s'être engueulé avec, avec son
pas,
propre...
Je dis ouais, pour nos auditeurs, pas. Ils ont pas...
Et ça, c'est en 89, et c'est à peu près, moi, le moment, moi et plein de gens avec moi, où on se rend compte que l'alternative, donc voilà, ça y est, c'est déjà terminé, c'est déjà un échec, c'est déjà derrière nous.
C'est-à-dire comme une confrontation avec un réel, et un réel où il y aurait une société trop plus forte finalement que tout. C'est-à-dire que où effectivement on devient comme les rockers qui tombent dans le business et dans les grandes majors, ou alors l'alternative peut pas vivre, c'est ça ?
Mais en tout cas, une société pas plus forte que tout, mais une société qui fonctionne vachement efficacement autour de ce truc de profit, beaucoup plus efficacement que nous on fonctionnait dans l'alternative, parce que bon bah le profit au moins c'est pas compliqué, on sait comment faire, on sait ce qu'on veut, on sait comment ce qu'on va essayer de faire. Donc elle fonctionne mieux que l'alternatif, et ça c'est la première. Mais l'autre, je trouve que l'autre découverte difficile de la fin des années 80, c'est aussi à quel point on a un potentiel autodestructeur chez les indépendants. À quel point les gens vont se démerder pour se foutre en l'air tout seul, parce qu'en fait quelque part ça fait partie des tensions dans le punk, quoi. C'est il y a un truc très positif, très constructif, très vivant, quoi. Mais il y a aussi un pôle morbide extrêmement actif, quoi. Parce que le punk rock, quand même, l'idée de base, c'est de mourir très jeune, quoi. Donc, quand on meurt pas très jeune, qu'est-ce qu'on devient? C'est un peu la problématique du bouquin, quoi. Mais ceci dit, Gloria, donc l'héroïne du roman, quand on la prend au début du roman, elle a un peu plus de 30 ans. Si on lui retire la musique, c'est juste une clocharde, quoi.
C'est votre petit camarade Patrick Eudeline qui me disait un jour dans cette même émission que le rock n'apprenait pas à vivre.
Je trouve que c'est les deux, moi. Je trouve que c'est, effectivement, ça apprend pas bien à vivre. Et en même temps, quand je vois des gens... qu'ont aucune formation punk rock, je les trouve un peu perdus aussi. Parce qu'on n'est pas non plus dans des sociétés où les gens sont très heureux, en général, de toute façon, quoi. Donc au moins, le rock, je trouve que ça permet d'essayer de garder un contact avec soi-même et ses émotions, quoi. Et même des choses extraordinaires, comme le rock, c'est une bonne école de ne pas avoir peur de sa vulnérabilité ou pas avoir peur de perdre, et pas avoir honte d'être un loser, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose de vachement important, on peut avoir honte de son échec.
Give me everything inside.
elle écoute Janis Joplin depuis qu'elle est gamine, accompagnée comme par une grande sœur. Au début des années 80, une fille qui bossait sur le marché, une ancienne à cheveux orange, perfecto, trop usée, la classe, lui avait dit que c'était la chef de file des filles perdues, Janis Joplin. Elle lui avait conseillé d'en faire sa sainte perso en cas de peine de cœur, ou bien quand elle cherchait de la dope ou n'en trouvait plus nulle part, ou quand elle cherchait un appartement et qu'elle flippait de dormir dehors, ou si elle voulait trop un job. Bref, en toute occasion, il fallait faire un petit hôtel pour Janis, la déesse urbaine. Allumer des bougies, mettre des offrandes, genre un gros joint, une canette de croûte, un joli porte-jartelle, avoir souvent la prière et l'humeur du moment. You know I'm very well protected. I know this goddamn life too well. Oh, don't call me mean. You could call me evil. Votre livre, Virginie Despentes, Bye Bye Blondie, Janis Joplin, qu'on vient d'écouter dans Turtle Blues. Un blues intéressant puisque le texte est d'elle et que c'est un texte extrêmement fort où elle parle aux hommes en disant qu'elle n'est pas une fille à leur faire de la vie une chose facile, mais que par contre elle veut bien aller boire avec eux. Alors vous êtes comme Gloria, votre héroïne, vous l'écoutez depuis que vous êtes petite?
Je l'écoute depuis pas si longtemps, moi, Janis Joplin. J'entends parler d'elle depuis que je suis toute petite et j'ai compris sa musique depuis quelques années seulement, en fait. Ça a été un peu long. Je crois que c'est une histoire d'émotion, il y a des choses qui s'ouvrent, quoi. À un moment donné, j'étais capable de reconnaître ce qui sonne au-dessus de la musique de Janis Joplin. Je crois que c'est ça, à un moment donné, on peut pénétrer le secret ou pas d'un artiste en musique. Et puis longtemps, ça, bah voilà, c'était pas ouvert.
Ça vous
quoi.
Touchait pas.
Ça me touchait pas. Et puis un jour.
Parce que c'était quoi, trop un rock,
trop féminin peut-être. Mais effectivement, c'est aussi un garçon extrêmement réussi, quoi, Janis Joplin. Mais quand même, c'est, à mon avis, c'est vraiment une artiste féminine.
Et vous l'écoutez alors à quel moment? Finalement, ça a quelle fonction? Parce qu'on a vu bon l'importance pour vous de groupes comme Berruyer Noir ou tout aussi cette période punk française. Je sais que vous aimez les Tugs et tous ces groupes-là. Donc Janis, elle est où dans cette
cosmogonie?
Dans cette cosmogonie et dans la façon dont vous écoutez les choses.
Bah, c'est justement, je crois que Janis Joplin, moi, c'est vraiment la femme en moi qui... c'est vraiment l'aspect féminin chez moi. C'est comme un petit ghost, comme on dit, elle m'accompagne, quoi. Elle est là, elle chante et elle chante sur des trucs de...
C'est la grande sœur, comme vous écrivez ouais, pour votre personnage de Gloria.
Ou maintenant que je grandis, maintenant que je vieillis, c'est un peu la petite sœur, hein, petit à petit.
Ah, ça y est, ouais. Et oui, ça s'inverse.
Mais elle est touchante, ouais. C'est la fille touchante. En même temps, c'est une grande puissance et en même temps une grande vulnérabilité et en même temps beaucoup de solitude et en même temps c'est vraiment l'amour et le sexe incarné. Enfin, c'est. Mais il faut toujours qu'il y ait des contradictions.
Alors elle a eu, si je vous ai bien compris, la chance de mourir d'une certaine façon parce que comme ça, elle est restée intacte.
Ça valide l'œuvre. Ça, y a pas à chier. Ça valide l'œuvre. Quand on est rocker, mourir jeune, il y a pas mieux malheureusement.
Il y a une question que je me posais, parce que vous me disiez combien aussi, à un moment, c'était très important d'avoir des musiciens qui ne savaient pas jouer, qui prenaient quand même leurs instruments et qui fonçaient, justement en opposition à tous les grands virtuoses des premières années du rock, hein, qui étaient je pense à Hendrix, mais il y en a mille autres, des virtuoses de l'instrument, donc à un niveau très élevé. Et je me disais, mais comment ça marche pour vous, ça, par rapport à l'écriture ?
Ben, c'est évident que moi j'écris Baise-moi d'une façon induite par le punk. Si je viens pas de la musique punk, je ne me permettrai pas d'écrire Baise-moi. C'est parce que pour moi le punk c'est une évidence et que l'énergie se suffit à elle-même. Enfin, du moment qu'on a vraiment quelque chose à dire de façon absolument urgente, il faut y aller le dire.
Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le punk, vous n'auriez pas osé écrire finalement?
Ah ben non. Ouais. Je pense que j'ai cette espèce de... Je suis complètement décomplexée à ce niveau-là. Je m'assois et j'écris baise-moi parce que je viens du punk. Sinon, je ne me serais jamais, ne serait-ce que, mais permis d'écrire un roman. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, d'ailleurs.
Vous avancez dans votre vie d'écrivain. Vous dites écrivain ou écrivaine, vous?
Écrivain, moi, je dis.
Bon, donc, vous avancez dans votre vie d'écrivain. Et puis, vous faites Bye Bye Blondie, par exemple, qui est votre dernier roman. Et là, vous ne pouvez plus être dans cette première posture. Donc, comment...
Non, je ne suis plus dans cette première posture, mais j'ai gardé quelque chose qui m'appartient et qui est proche du punk, je crois, justement. Et le fait que je sois complètement décomplexée par rapport à ça et que je ne me sois pas du tout laissée... attaqué par des réflexions plus sur mon manque d'académisme ou n'importe quoi, c'est parce que je viens du punk et je suis absolument convaincue que c'est une culture qui vaut le coup et que j'ai pas de complexe.
Et par exemple, est-ce que vous travaillez votre phrase? Comment ça se passe? C'est ça que j'ai envie de savoir.
Je relis, j'écoute, faut que ça sonne, je connais ce que j'ai à faire, je sais comment ça doit sonner, je sais ce qui sonne à côté, j'ai une oreille quoi pour ce que je fais. Donc oui, je suis attentive, je relis quoi par exemple.
À haute voix? Quand vous dites que ça sonne ou ça sonne intérieurement?
Intérieurement, je relis à haute voix. Des fois, je le dis vraiment à voix haute, mais pas forcément. Mais de tout, je le fais sonner. Il faut que ça sonne si c'était dit à voix haute. Ouais. À peu près tout est relu chez moi. Mais en même temps, c'est pas en fonction. J'ai pas appris ça à la fac. J'ai appris ça dans le rock. Effectivement, comment ça doit sonner chez moi.
Il y a des
pas que dans le rock, j'ai vachement lu aussi. Mais j'ai quand même vraiment, j'ai appris tellement de textes de chansons que bien évidemment, ça m'est vraiment rentré en tête et que je sais quand, à mon avis, ça sonne et quand ça sonne pas. Ouais, je le sais chez moi et je le sais chez les autres.
Quand vous dites j'ai appris beaucoup de textes de chansons, c'est-à-dire, c'est à la fois de les écouter.
Je les connaissais vraiment par cœur. Ouais. C'était un vrai jukebox pendant des années. Puis ça me plaît, même encore maintenant, j'en apprends par cœur. Hein. J'apprends encore des textes de
volontairement
par cœur.
Ou à force de les écouter?
À force de les écouter, j'imprime le texte, un jour je le recopie, et puis c'est vrai que c'est un peu volontaire quand même.
C'est-à-dire, vous avez des petits cahiers où vous mettez les textes de chansons?
Non, mais des feuilles, ouais, j'écris, ça me plaît. Et ça me plaît, par exemple, la poésie en ce moment, mon truc c'est vraiment Les Libertines, la poésie de Peter Doherty, elle me plaît, ça me plaît, ça me plaît qu'il l'a dit, ça me plaît de l'entendre, de la répéter, de l'apprendre, de la chanter, ça me plaît quoi. C'est vraiment de la poésie, les textes de Doherty, donc on peut pas tellement les expliquer ou les résumer, c'est vraiment... Entre de la poésie et n'importe quoi, il n'y a aucune différence, sauf que la poésie, ça sonne et il y a un sens qui est au-dessus, comme une harmonique, alors que quand ça ne marche pas, ben, ça ne sonne pas. Quoi. Et chez Peter Doherty, ça sonne, comme ça sonnait chez Bukowski ou chez Houellebecq, et puis la plupart des gens, ça ne sonne pas chez eux. Quoi. What you gonna do, Katie? You're a sweet, sweet girl. But it's a cruel, cruel world, a cruel, cruel world. But things are none too strong, Katie. Hurry up, Mrs. Brown. I can feel it coming down, and it won't take none too long. But since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know why. Sweet, sweet girl. But it's a cruel, cruel world, a cruel, cruel world. Safety pins are none too strong, Katie. They hold my life together. And I never say never, and I never say never again. But since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know. Since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know why.
The Libertines, What Katie Did, amené par Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de violence, de hurlements dans certaines parties du rock qu'on a écouté ensemble, que vous avez évoqué. Il y a beaucoup de hurlements dans votre roman Bye Bye Blondie. Votre héroïne, c'est quelqu'un qui a une sorte de très grande violence extravertie qu'elle essaie dont elle essaie de faire quelque chose. Et puis là, vous nous amenez ce disque, et tout d'un coup, on est dans autre chose. Quelque chose qui est d'une grande subtilité, avec de la douceur, de la sensualité.
La musique des Libertines, c'est plus funambule. Effectivement, c'est plus doux. Mais le personnage, par contre, de Peter Doherty, qui est donc un des deux chanteurs des Libertines, est pas hyper subtil et doux. Peter Doherty, c'est à la fois le poète et à la fois c'est vraiment l'anglais hooligan de base. C'est vraiment le prolo anglais dans toute sa superbe brutalité. Et en même temps, c'est vraiment le poète, quoi. Et tous les gens qui étaient pas convenables dans le punk trouvaient une place vachement plus convenable. Les femmes qui étaient des mauvaises femmes, soit de mauvaise vie, soit des garçons manqués, elles trouvaient une place dans le rock comme nulle part ailleurs. Mais de la même façon, les garçons qui étaient pas assez virils aussi, les garçons qui étaient pas bien foutus
tous
aussi.
Tous ceux qui étaient pas, quoi.
Tous ceux qui étaient un peu à la masse, quoi. Mais c'était ça, le punk rock, hein. C'était n'importe où ailleurs, on aurait été des pauvres tâches. Et d'un coup, dans ce mouvement-là, on trouvait notre façon d'être et que c'était bien, quoi. Et ce qui était pathétique dans la vie normale devenait formidable dans le punk rock. C'est ça, le punk rock. Enfin, il y a vachement de femmes qui sont faufilées là-dedans, qui ont fait leur place, qui élargissent un peu les ornières. Mais là-bas, c'est un truc de mec blanc, classe moyenne, quoi. C'est quand même très typé, le rock.
Et le milieu de la littérature?
Je le trouve plus violent contre les femmes parce qu'il est, c'est plus de non-dit et c'est plus implacable que dans le rock. Un point commun qu'on peut avoir, notre oncle Louis Delhomme, moi et Christine Angot, et qu'on partage avec d'autres, c'est que si on n'est pas en littérature, il n'y a rien de possible pour nous. Sinon, je pense que dès qu'il y a quelque chose d'autre de possible, on ne persiste pas en littérature, c'est trop dur. C'est trop dur, et je pense en tant que femme, c'est super difficile d'écrire. Je ne pensais pas quand j'ai commencé, mais alors vraiment pas, et maintenant que j'ai 35 ans, je le pense, je pense que c'est vraiment super dur pour une femme d'écrire. Et donc, si on le fait, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre, on n'a pas le choix, quoi.
Et la musique, vous n'avez jamais eu envie, finalement, puisqu'elle est si importante?
J'aurais été incapable. J'ai pas le don, donc c'est un premier truc super important. Et j'aurais été incapable de faire les mêmes concessions en musique que j'ai fait en littérature. C'était trop important pour moi. Pas important, c'est pas le propos.
C'est plus important?
C'est plus adolescent. Ça a été plus un rêve. La littérature, j'avais même pas compris qu'il y avait des auteurs vivants quand j'étais petite. Donc c'était hyper important, les livres. Mais la littérature, ça voulait rien dire pour moi. Le rock, la musique, tout ça, ça a tellement tout voulu dire, j'aurais pas supporté. C'est plus une patrie, c'est plus quelque chose qui existe, la musique, quoi. Les livres, je sais pas comment dire, c'est vraiment solitaire pour moi. C'est vraiment quelque chose à part, c'est quelque chose qui se partage pas pareil. C'est important, c'est crucial, je me vois pas vivre sans les livres, mais j'ai pas partagé, ça n'a pas été une expérience de vie comme la musique, ça l'a été, quoi, et comme ça l'est toujours, en fait. Par exemple, j'ai jamais été amoureuse d'un garçon qui écoutait pas de la musique, j'ai déjà été amoureuse de garçons qui lisaient pas. Ça veut tout dire, quoi, en fait.
On va se quitter avec une dernière musique. Alors une femme, justement, une femme qu'on a beaucoup diabolisée, qui représente comme ça une espèce de sorcière sur laquelle tout le monde se déchaîne, beaucoup se déchaîne, c'est Courtney Love.
Je trouve qu'elle est emblématique de tout ce que l'Amérique veut plus supporter de la part des femmes, de débordement, de braillage, d'ambition, de...
Et vous aimez quoi en elle, à part ça? Bien sûr, on a bien compris que vous aimez beaucoup, mais...
Ses disques.
Ouais.
Alors vraiment, sans aucune hésitation. Avant même qu'elle soit avec Kurt Cobain, donc elle arrive avec When I Was a Teenage Girl, qui est un album au tout début des années 90. Et pour moi, c'est une claque définitive. Il y a un avant et un après. Parce qu'elle arrive avec une imagerie, une interprétation, des textes, un son. Enfin, elle arrive avec un truc très cohérent. Et c'est vraiment, je crois, ce vers quoi on tend toute. Moi, à ce moment-là, j'ai 22 ans, même pas. Et c'est vraiment une révélation pour moi, Courtney Love.
Et puis, c'est peut-être une chose assez rare, moi, je trouve, dans le rock. C'est une voix extraordinaire.
Une voix extraordinaire.
Et il n'y en a pas tant que ça. Parce que souvent, c'est un mélange, le rock, mais des voix...
Et puis comme beaucoup de gens qui ont vraiment une légende, je crois que la légende a complètement écrasé son travail artistique. Et effectivement, elle a une voix, il n'y a pas deux chanteuses. Après, par exemple, une fille comme Brody Dell, qui est une jeune chanteuse, qui essaie vachement de chanter comme Courtney Love, elle peut essayer de chanter comme Courtney Love, mais cette interprétation-là, il n'y a que Courtney Love qui l'a réussi, quoi. Et à mon avis, par la suite, on se rendra compte, elle a laissé quand même trois albums absolument classiques, quoi. Et il y a peu de gens qui ont fait ça récemment.
Alors, le titre que vous avez choisi,
Je sais plus le titre, mais je sais que c'est un super titre.
Ah bah c'est formidable.
Sunset Strip. Non, mais il est vraiment super beau.
Ouais, c'est bien. peut dire Bye Bye à Blondie. Bye Bye Blondie, c'est le titre du dernier livre de Virginie Despentes qui est publié chez Grasset. Dire au revoir aussi à Courtney Love et à son Sunset Strip que nous sommes encore en train d'entendre. Des décibels, il y en a là en ce moment sous moi avec Courtney Love, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher, réalisée par Olivier Guérin, mixée par Claude Courtois. Et ils font des grimaces derrière les vidéos, voilà pourquoi je ris. Mixée par Claude Courtois.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 novembre 2004.